Souvent, on a tendance à supposer que nous vivons dans un tout nouveau monde et que les anciennes règles ne s'appliquent plus, que les événements du passé n'ont aucune pertinence sur les événements d'aujourd'hui, et c'est faux.
Le travail maintenant de l'historien, c'est précisément de ressusciter une civilisation dans sa totalité.
Dire que l'histoire est celle de la lutte des classes, est-ce une vérité qu'on appréhende directement ?
L'histoire, c'est un dépassement de l'événement. C'est-à-dire qu'il y a 36 définitions d'histoire pour les 36 historiens, même plus de 36 historiens. Chaque historien a sa conception de l'histoire.
Dans des classes jeunes, je ne demande pas que les gens connaissent par cœur les dates, les noms, etc.
Vous me gênez parce que j'ai le sentiment que je vais jouer au professeur et c'est pas le bon endroit.
Vous écoutez Leçon d'Histoire, une émission réalisée par Guillaume Manchot et produite pour le compte d'Itac, le journal qui va moins vite et plus loin. Voici le deuxième volet de notre série sur l'histoire de l'Ukraine. Mais avant de commencer, je vous propose un petit rembobinage. Lors de l'épisode précédent, nous avons fait connaissance avec Eric Honoble, spécialiste de l'Ukraine et chargé de cours à l'Université de Genève.
Cette année, je fais un enseignement qui s'est avéré malheureusement un peu prémonitoire, dans la mesure où je faisais un cours sur l'histoire de l'Ukraine pendant les deux derniers siècles et que j'ai enchaîné sur un séminaire portant sur les violences politiques à l'est de l'Europe, de la Première Guerre mondiale à la mort de Staline.
Tel des hussards, nous avons, avec lui, chevauché plusieurs siècles d'histoire ukrainienne. Non, pas ukrainienne. Comment est-ce qu'il faut dire déjà ?
J'ai passé un semestre à faire cours en faisant comme ça une périphrase, disons toujours dans les territoires qui constituent aujourd'hui l'Ukraine.
Grâce à notre historien, les Cosaques n'ont plus aucun secret pour nous.
J'ai quand même essayé de lire là-dessus, j'ai toujours pas trouvé de réponse définitive qui me semble satisfaisante.
Nous avons également disserté longuement sur les très riches heures du nationalisme ukrainien.
Il faut bien se rendre compte que le nationalisme ukrainien, jusqu'en 1905, est insignifiant.
Et nous avions conclu cette première leçon sur un gambit, comme on dit aux échecs.
Donc là, vous avez toujours le problème que le nationalisme ukrainien va toujours choisir une puissance contre l'autre, ce qui, pour obtenir son indépendance, c'est quand même un moyen un peu problématique.
À vos cahiers, à vos stylos, notre leçon avec l'historien Eric Honoble est sur le point de reprendre. Au cours de cet épisode, il sera question de guerre mondiale, au pluriel, de développement industriel, d'une famine absolument épouvantable et d'une historiographie un peu compliquée, car les historiens ne racontent évidemment pas tous la même histoire, particulièrement quand il s'agit de faire celle de l'Ukraine. L'Europe est ravagée encore par la Première Guerre mondiale. L'empire des tsars se délite et certains en profitent. En tout cas, c'est en 1917 qu'apparaît pour la première fois une nation qui s'appelle Ukraine.
Oui et non. C'est-à-dire, l'affirmation nationale ukrainienne apparaît, alors là pour le coup, clairement, ouvertement en 1917. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'elle apparaît au milieu de tout le foisonnement révolutionnaire. Et donc, ce qui est considéré comme un peu l'origine de la légitimité de la revendication nationale en Ukraine, à savoir la Rada centrale de Kiev, formée en mars ou avril 1917.
La Rada, donc, c'est...
Le Conseil central. Alors, dans l'historiographie nationaliste, c'est souvent présenté comme un parlement. En fait, ce n'est pas un parlement, parce que ça a été élu par personne. C'est un regroupement de militants des différentes tendances nationalistes ukrainiennes, depuis les plus modérés qui réclament un fédéralisme dans le cadre d'une république russe rénovée, jusqu'à justement les tenants d'un nationalisme, disons, indépendantiste. Mais donc, c'est un regroupement de militants. Donc, ils n'ont aucune légitimité. Ils ont même sans doute moins de légitimité que n'en ont à l'époque, par exemple, les soviets, qui sont au moins élus sur la base des salariés d'une entreprise. Alors, simplement, ils vont essayer de gagner une légitimité dans le cours des événements. Et ils vont être aidés en cela par la politique du gouvernement provisoire de la République russe, donc basé à Petrograd, qui cherche désespérément des appuis dans un milieu, on va dire, politiquement libéral de gauche et socialement d'intellectuels et de bourgeoisie petite ou moyenne. Et en fait, c'est un peu le gouvernement provisoire. La Rada va essayer un peu d'affirmer son pouvoir et le gouvernement provisoire va la reconnaître comme une espèce de branche locale. Et donc, il va y avoir tout un jeu comme ça. Mais la Rada est très vite dépassée par les événements sur le terrain social. Et elle-même, elle n'a pas vraiment de programme social. Et donc, ce qui se passe sur le terrain social, ben, c'est les ouvriers qui commencent à prendre en main les usines, les paysans qui attaquent les domaines. Et là-dessus, la Rada, elle est en retard, même vis-à-vis des paysans ukrainiens ou des ouvriers ukrainiens.
La Rada se fait rattraper par la révolution.
Quelque part, alors qu'elle est elle-même née de la révolution. Donc socialement, elle est très en retard et il y a tout un moment à partir de l'automne 1917 où elle va essayer de courir derrière, derrière les bolcheviks ou les anarchistes qui sont un peu l'aile marchande de l'aspect social de la révolution. Mais évidemment, sur ce terrain-là, ils vont être peu convaincants et d'autant moins convaincants qu'en Ukraine, les régions industrielles ne sont pas ukrainiennes, elles sont russophones. C'est la région de Kharkov, c'est le Donbass, c'est la région d'Odessa, et c'est des régions où vous avez maximum 30% d'Ukrainiens dans la population. Et quand je dis maximum, c'est plutôt dans les villes, c'est plutôt de l'ordre de 10%. Donc la Rada, elle est basée à Kiev, mais qui est une ville importante, mais qui n'est pas une ville industrielle, qui est plutôt une ville administrative. Et donc, la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine se fait le jour de la révolution d'octobre, donc le 7 novembre 1917, mais comme réponse aux bolcheviks. C'est-à-dire que les nationalistes ukrainiens ne veulent devenir indépendants que quand les bolcheviks arrivent au pouvoir, c'est-à-dire plutôt indépendants que rouges. C'est un peu ça le slogan. Alors que tant que c'était une république russe modérée, la Rada était prête à trouver des accommodements, des compromis, des ceci, des cela. Et cette idée que tout sauf rouge, qu'il faut être tout sauf rouge, va conduire la Rada à chercher ensuite un allié. Et l'allié, ça va être l'Allemagne, qui profite de la révolution d'octobre pour relancer une offensive contre ce qui était l'Empire tsariste. Et ce qu'on sait peu... On sait en général, pour quiconque en tout cas s'est intéressé à la question, que les bolcheviks ont conclu un traité de paix avec l'Allemagne.
Le traité de Brest-Litovsk.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la République populaire d'Ukraine, qui avait été proclamée le 7 novembre 1917, avait signé son propre traité de paix un mois plus tôt avec l'Allemagne, pour que l'Allemagne protège cette République populaire d'Ukraine contre les bolcheviks. Et en fait, les émissaires ukrainiens ont signé avec les Allemands alors que les troupes bolcheviks étaient déjà à Kiev, donc que le siège du gouvernement indépendant ukrainien n'existait déjà plus. Et c'est les troupes allemandes qui ont réinstallé le gouvernement ukrainien à Kiev. Donc là encore, une indépendance, oui, mais dans les fourgons d'une armée étrangère contre une autre armée qui est considérée comme étrangère elle aussi.
En jouant une puissance contre une autre.
Voilà.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et dans la suite de la guerre civile qu'il y a eu dans tout l'ex-empire tsariste, ça a continué comme ça. Quand les Allemands se sont retirés de l'affaire... Alors, ça a eu un effet positif pour le nationalisme ukrainien, c'est qu'avec l'effondrement de l'Empire allemand, il y a eu aussi l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Et c'est à ce moment-là que les nationalistes de Galicie ont enfin proclamé leur indépendance, parce que tant que l'Empire austro-hongrois existait, il n'était pas question pour un nationaliste galicien de trahir la monarchie austro-hongroise.
On a même eu pendant un court moment deux Ukraines, non ?
Oui, oui, oui. Donc ils ont proclamé leur indépendance à la chute de l'Empire austro-hongrois fin octobre, début novembre 1918, et ils ont signé un accord d'union avec la République populaire d'Ukraine ex-tsariste, ex-russe, en janvier 1919. Sauf que très rapidement, ils se sont brouillés entre eux, parce que, les nationalistes ukrainiens de l'ex-empire tsariste entre autres Simeon Pietlura, à chercher une alliance avec les Polonais contre les Russes, Polonais qui venaient d'affirmer leur indépendance avec Pilsudski.
Polonais qui vont faire la guerre contre les bolcheviks.
Voilà. Donc, pour Pietlura, Pilsudski, comme il faisait la guerre aux bolcheviks, c'était quelqu'un de bien. Alors que pour un nationaliste de Galicie, le Polonais, c'est le pire ennemi possible. Par contre, les nationalistes de Galicie, eux, voulaient soutenir les Russes blancs contre les bolcheviks. Alors que Pietlura savait que les Russes blancs ne supportaient pas l'idée d'une Ukraine indépendante sur les terres de l'ancien empire tsariste. Donc du coup, cette éphémère république unifiée d'Ukraine, la république populaire unifiée d'Ukraine, elle n'a pas duré parce qu'il y avait des jeux d'alliance totalement antagonistes.
Et comment se termine cette triste histoire alors ? L'Ukraine se bolchevise elle aussi ?
Oui, mais alors justement, elle se bolchevise. Alors, dans l'historiographie ukrainienne d'Ukraine ou de la diaspora, c'est présenté comme l'écrasement d'une nation qui s'affirmait par la toute-puissance bolchevique déjà totalitaire. En pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, parce que, la République populaire d'Ukraine s'est retrouvée confrontée au même problème qu'en 1917, à savoir la question sociale, et que là, toutes les mesures sociales prises par les nationalistes ukrainiens l'ont toujours été, une fois que les bolcheviks avaient déjà pris le même type de mesures. Donc, grosso modo, les paysans pouvaient difficilement sentir que les nationalistes ukrainiens étaient de leur côté. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, il y a eu une vague de pogroms en 1919 en Ukraine. Dans les persécutions qui ont touché les Juifs dans cette zone, il y a trois périodes. La révolte de Bogdan Khmelnytsky au XVIIe siècle, les pogroms de 1919 et ensuite c'est la Shoah. Et ça a été crescendo d'une période à l'autre. Une idéologie officielle de tolérance vis-à-vis des différentes nationalités existant en Ukraine, les gouvernements nationalistes ukrainiens n'ont rien fait contre les pogroms. Parce que grosso modo, c'était leurs troupes qui perpétraient ces pogroms et qu'ils avaient à choisir entre leurs soldats et la protection des Juifs. Or, sans soldats, ils n'existaient plus. Donc voilà. Et ça veut dire que quand les bolcheviks sont arrivés, ils pouvaient représenter la garantie que les terres ne reviendraient pas à leurs anciens propriétaires nobiliaires. Et là-dessus, les nationalistes ukrainiens avaient fait un certain nombre de gestes, mais n'avaient pas forcément été jusqu'au bout. Et puis surtout, les bolcheviks représentaient une certaine stabilité et puis la fin des massacres interethniques. Donc, grosso modo, le gouvernement de Pietlura a disparu sans soutien populaire. Quand les bolcheviks ont repris l'Ukraine, il y a eu des tas de soulèvements paysans, mais ce n'était pas des soulèvements paysans pour une Ukraine indépendante. C'était des soulèvements paysans pour éviter que les terres soient collectivisées, pour éviter que les bolcheviks aillent mettre trop leur nez dans les affaires du village. Mais ce n'était absolument pas des révoltes pour défendre la nation ukrainienne.
Donc là, on est au cours des années 20. Hein.
Là, on est en 1920. Et ensuite, au cours des années 20, la situation en Ukraine est, j'allais dire, relativement calme, aussi calme qu'elle peut être au sortir de 3 ans de guerre étrangère et de 3 ans de guerre civile, mais de revendications nationalistes. Alors oui, les milieux nationalistes qui ont commencé à s'agiter en 1917 continuent à exister, et donc il y a tout un jeu, ils partent en exil, sauf qu'en Pologne, la politique du pouvoir polonais vis-à-vis des Ukrainiens n'est pas du tout libérale non plus, il y a aussi de la répression, donc ils partent aussi en Tchécoslovaquie, ou à Prague, il va y avoir un certain nombre d'instituts ukrainiens qui se créent, mais ils ont le mal du pays. En plus, la République socialiste soviétique d'Ukraine va promouvoir la langue ukrainienne, la culture ukrainienne. Donc il va y avoir un véritable appel de l'Ukraine soviétique vis-à-vis de tous les milieux nationalistes que certains vont entendre. Une fois arrivés sur place, ils vont être déçus, mais pas forcément tout de suite, pas forcément tous. Voilà, donc les choses vont être assez compliquées. Et chose très importante, les années 20 vont vraiment être une espèce d'âge d'or pour l'affirmation, pas tellement nationale, mais pour l'affirmation culturelle ukrainienne. Parce que toute une génération va aller dans des écoles ukrainiennes. Il va y avoir une floraison d'écrivains et d'artistes ukrainiens, des gens de très très haut niveau, d'un niveau largement aussi élevé que les grands écrivains russes de la même période, et en plus sur les mêmes thématiques. C'est-à-dire vraiment des écrivains qui manient une langue complexe, voilà, des gens qui ont une grande valeur littéraire. Puis qui posent des problèmes. Je veux dire, c'est des gens qui, pour l'énorme majorité d'entre eux, se réclament du communisme, mais qui vont traiter des problèmes justement dans la paysannerie, des problèmes de rapport entre les langues, voilà, et qui vont traiter ça d'une façon pas du tout univoque, pas du tout propagandiste, mais d'une façon très complexe. Et puis bon, ben ça se termine au début des années 30 par la reprise en main stalinienne
et par la grande une grande tragédie que va traverser l'Ukraine, notamment l'Ukraine des campagnes, mais l'Ukraine en général, l'Holodomor, c'est bien ça ?
Alors oui, la famine. Alors, le terme de Holodomor, c'est un terme récent. Hein. Je crois qu'il commence à être utilisé dans la deuxième moitié des années 1970. Donc, c'est pas du tout un terme de l'époque. Alors, cette famine-là, c'est un peu la troisième ou la quatrième partie de l'application du plan stalinien en Ukraine.
Le fameux plan quinquennal.
Voilà. La première partie, c'est l'idée que l'Union soviétique doit se moderniser et que ça suppose d'un côté une industrialisation extrêmement rapide du pays et que cette industrialisation n'est possible que si en même temps les campagnes dégagent de la main-d'œuvre et se mécanisent elles-mêmes. Et que le meilleur moyen d'y arriver, c'est la collectivisation. Et donc, y a des articles de Staline disant que dès qu'il y aura des tracteurs partout, la collectivisation sera un jeu d'enfant. Sauf qu'on commence par collectiviser alors qu'on n'a pas encore construit les usines de tracteurs. Donc ça veut dire qu'on collectivise des petites exploitations qui ont un matériel primitif et qu'on dit que tout le monde doit travailler ensemble alors qu'il n'y a pas le matériel pour. Donc premier problème. Et en Ukraine, c'est particulièrement fort comme problème parce que justement, en effet, les formes de propriété individuelle étaient, et ça c'est une réalité, plus développées en Ukraine que dans le reste de l'ex-empire tsariste.
Les Cosaques ont la peau dure.
Alors, c'est pas tellement les Cosaques, c'est plutôt...
L'esprit des Cosaques.
Encore moins. En fait, ça tient à quelque chose... Alors, d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant de voir comment les constructions de représentation historique se font, parce que, donc, globalement, ce qu'on lit, c'est les Ukrainiens étaient plus attachés à la propriété individuelle. Mais en fait, ça tient au fait que les seigneurs en Ukraine étaient majoritairement des Polonais historiquement et que les redevances que demandaient les seigneurs polonais à leurs serfs étaient des redevances individuelles pour des raisons alors là que je ne connais pas, alors que les seigneurs russes demandaient une redevance collective par village. Et du coup, dans les zones contrôlées par des seigneurs russes, comme la redevance était collective, les paysans étaient obligés de s'organiser collectivement et c'était une assemblée de villages qui décidait de comment l'impôt allait être réparti et qui, du coup, re-répartissait les terres entre tout le monde régulièrement pour que l'impôt pèse équitablement sur tout le monde. Alors que dans les terres dominées par des seigneurs polonais, comme l'impôt était individuel, chaque paysan était responsable de son travail pour payer son impôt. Voilà. Et les seigneurs polonais étaient là dans tous les territoires qui avaient appartenu à la Pologne, c'est-à-dire jusqu'à Kiev inclusivement. Voilà, donc, et ensuite, on va dire que naturellement, les Ukrainiens sont plus individualistes. Voilà.
Encore un cliché démonté.
Voilà. Mais donc, au moment de la collectivisation, par contre, ce qui est bel et bien réel, c'est que en Ukraine, il y a plus de révoltes contre la collectivisation qu'ailleurs. Et ça, dans un État très bureaucratique, avec une police politique qui fait de longs rapports, tant de révoltes armées, etc., etc. Statistiquement, il apparaît qu'en Ukraine, il y a beaucoup plus de révoltes qu'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'au niveau du régime, il y a une petite lumière qui s'allume, danger, concernant l'Ukraine. Et l'autre logique, c'est que donc, industrialisation, alors industrialisation qui touche l'Ukraine, hein, et massivement, des usines énormes sortent de terre, l'usine de tracteurs de Kharkov, donc il n'y avait pas de tracteurs au moment de la collectivisation, mais l'usine de tracteurs de Kharkov, elle est construite en moins de 2 ans, mais c'est-à-dire qu'entre la première pierre et le premier tracteur, il y a moins de 2 ans. Et c'est une usine gigantesque. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ces nouveaux ouvriers qui travaillent dans les usines staliniennes, c'est souvent ceux qui ont été découlakisés, c'est-à-dire chassés du village en tant que paysans riches. C'est-à-dire que ceux qui ont eu de la chance, ce sont justement ceux qui ont réussi à fuir avant qu'on ne les envoie en Sibérie et qui sont devenus ouvriers. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les sources soviétiques où des responsables disent « mais notre classe ouvrière, c'est des anciens koulaks, il y a un problème ». Mais c'est une réalité aussi. Donc c'est pour dire que le développement industriel de l'Ukraine au moment du premier plan quinquennal est une réalité et que, y compris dans l'image d'un pays moderne, il y a une dette vis-à-vis du régime stalinien. Et j'y pense parce que j'utilise comme fond d'écran de mon ordinateur une carte d'un manuel scolaire ukrainien pour les petites classes qui représente l'Ukraine soviétique. Donc on voit la frontière gardée par un soldat rouge avec de l'autre côté un soldat polonais, mais on voit le barrage sur le Dniepr, mais on voit les bâtiments constructivistes de Kharkov qui à l'époque était la capitale. Et c'est clairement identifiable sur la carte du manuel scolaire comme un élément de fierté pour un jeune Ukrainien d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est que les villes, il faut les nourrir et que depuis la guerre civile, ce qu'ont compris les élites soviétiques, c'est que ben, pour nourrir les villes, il faut réquisitionner dans les campagnes. Et donc ça veut dire qu'il y a une espèce de fuite en avant des réquisitions de blé. Et que face à une résistance, ben, il faut la briser. Et dans le cas ukrainien, il y a d'autant plus nécessité de briser la résistance que cette résistance est considérée comme spécifique. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de révoltes contre la collectivisation, donc les Ukrainiens risquent de résister plus que les autres aux réquisitions, donc il faut réquisitionner plus en Ukraine qu'ailleurs. Sachant qu'au même moment, et ça depuis la fin des années 20, le régime stalinien s'est persuadé d'un risque de guerre avec l'étranger. Et ça se retrouve y compris dans la politique de l'international communiste. Par exemple, il y a eu à l'été 1929 un appel mondial à la grève générale contre la guerre contre l'URSS. Et les quelques militants communistes qui ont fait grève tout seuls ont été, mais il y en a eu un peu partout dans le monde, hein, ont été immédiatement licenciés quand c'est pas mis en prison. Mais donc le régime stalinien s'est persuadé que le monde capitaliste autour veut envahir l'Union soviétique. Et dans le cas de l'Ukraine, ça veut dire que les Polonais veulent envahir l'Ukraine. Et que, d'autant plus que le nationalisme ukrainien est toujours centré en Galicie et que la Galicie fait partie de la Pologne. Le fait que les Galiciens soient fort maltraités par le régime polonais, ça rentre pas dans la tête d'un bureaucrate soviétique, mais donc il y a toujours cette peur-là. Donc du coup, là encore, ça va surajouter à la volonté de réduire toute opposition potentielle en Ukraine. Et donc là, il y a une machine infernale qui se met en place où les réquisitions sont plus élevées en Ukraine qu'ailleurs, les méthodes pour récupérer le blé plus radicales qu'ailleurs, et où la résistance qui est opposée par les paysans va être d'emblée considérée comme une résistance sécessionniste, non seulement contre-révolutionnaire, mais visant à démanteler l'État soviétique pour faire une Ukraine indépendante pour le compte des Polonais. Donc du coup, il y a des mesures extrêmes qui sont prises, à savoir d'encercler, de sélectionner des villages qui sont considérés comme particulièrement rebelles et de les couper du reste du monde, c'est-à-dire y compris d'empêcher les paysans de sortir des villages pour trouver à manger ailleurs. Et donc là, on passe d'une famine, d'une famine qui est laissée faire par le régime à une famine qui est aggravé et poussé jusqu'au bout par le régime. Voilà. Et de ce point de vue-là, la famine ukrainienne est plus grave. La famine a touché en fait toutes les terres à blé du RSS. Hein. c'est-à-dire l'Ukraine, tout le bassin de la Volga et le nord du Kazakhstan. La spécificité en Ukraine, c'est justement qu'il y a ces mesures pour empêcher de sortir les paysans des zones de famine. Alors que dans les autres zones de famine, on va les laisser sortir et donc ceux qui pourront se sauver se sauveront. Chose qui avait déjà existé pendant la famine de 1921, où les gens avaient cherché à manger ailleurs. Et famine de 1921 qui, elle, avait été publique. Alors que la famine de 1933, il y a un blackout total du régime stalinien là-dessus.
Il y a une organisation autour de la famine. Certains historiens, justement, traitent ce phénomène-là en parlant de génocide de classe, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je vais vous dire, déjà, génocide de classe, si c'est un génocide, c'est pas de classe. Vous voyez, il y a un problème avec les termes. Ça, c'est une première chose. Deuxième problème, c'est que le terme de génocide, c'est un terme normatif juridique. Donc, analyser une réalité historique avec ce type d'outils, ça pose problème. Et Nicolas Vert, qui pendant toute une période avait quand même été assez loin dans le sens de l'historiographie nationaliste ukrainienne, a considéré la famine comme un génocide, on est un peu revenu en disant la question de génocide, c'est pas une question pour les historiens, c'est une question pour les juristes. Et puis la troisième chose, c'est qu'en fait cette affirmation de la famine ukrainienne, cette qualification de la famine ukrainienne comme un génocide, là pour le coup, et d'ailleurs comme le terme Holodomor, c'est une construction des milieux nationalistes ukrainiens en Amérique du Nord dans les années d'après-guerre et plus particulièrement dans les années 70-80. Et quand je dis une construction, y compris sur l'emploi du terme de génocide, une construction en concurrence avec le génocide des Juifs. À telle enseigne que, en travaillant sur un petit article de synthèse, pas un article de recherche, mais sur la question, j'étais quand même tombé sur un texte des années 70 où c'était très ouvertement dit, en plus sous forme d'adresse à un lecteur occidental, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'on ait autant de morts que les Juifs, eh bien oui, 6 millions, ça vous suffit pas, quelque chose comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée de reconnaissance du génocide a été mise en avant. Ça correspondait aux États-Unis à la présidence de Ronald Reagan, donc au renouveau de la guerre froide. Et donc là, il y a eu une alliance entre les milieux nationalistes ukrainiens qui s'étaient pas mal implantés dans l'université nord-américaine. Et sachant que les études soviétiques dans l'université nord-américaine avaient été un outil de guerre froide pendant de longues années. Donc vous voyez, il y a eu tout ça. Donc, alors c'est pas du tout pour nier ce qui s'est passé, pour nier. Alors a priori, moi dans ce que j'ai lu...
Il s'agit de trouver les mots justes.
Voilà. Et non seulement les mots, mais aussi les chiffres. C'est-à-dire que grosso modo,
les chiffres, justement, on vient,
ouais. Ce que j'ai lu de plus... ce qui me semble le plus sérieux, alors il y avait des travaux d'une équipe de démographes dont fait partie Alain Blum, et puis aussi des travaux de démographes ukrainiens. Grosso modo, c'était une fourchette entre 2,5 et 3,5 millions de morts. Ce qui est énorme, hein. Ça représente entre 10 et 15% de la population de l'Ukraine soviétique de l'époque, hein. Donc c'est énorme. Mais c'est pas 6 millions, c'est pas 7 millions, et c'est pas non plus, je crois, 10 millions, comme je l'ai entendu sur France Inter au moment du Maïdan par une représentante, quelqu'un qui se disait représentante du Maïdan en France.
La tragédie continue, on fait encore un saut de puce, on avance dans notre chronologie. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, une autre tragédie, bon, l'emploi du mot tragédie, on l'emploie souvent en histoire, c'est souvent assez problématique parce que permet d'avoir souvent une compréhension peut-être trop simplifiée des choses. Quoi qu'il en soit, les troupes russes refluent, les Allemands reviennent, entre guillemets.
Oui. Alors, reviennent, si on peut le dire, dans la mesure où, en effet, c'est un retour comme en 1918.
Du refoulé, non ?
Alors, chez les Allemands, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les plans d'origine de l'invasion allemande reprenaient les plans de 1918, c'est-à-dire l'idée de transformer l'Ukraine en une espèce de colonie agricole qui permettrait de...
Reniable.
Oui, de nourrir le Reich, avec l'idée qu'il fallait, je crois... grosso modo, diminuer des trois quarts la population ukrainienne, c'est-à-dire ne garder, éliminer les villes et ne garder que la population nécessaire au fait de cultiver le blé, blé qui serait exporté directement en Allemagne, élimination de toute forme d'éducation secondaire pour les Ukrainiens, c'est-à-dire transformer la population de l'Ukraine en esclave pour le compte du Reich. Voilà.
Aux yeux des nazis, les Slaves sont des sous-hommes, donc employons-les.
Oui, voilà, oui. Oui. Alors, sauf que ces plans-là ne vont pas être appliqués tels quels, et quand ils se retrouvent appliqués, c'est presque... indépendamment de la volonté directe de ceux qui les appliquent. Alors, ils ne vont pas être appliqués tels quels, parce qu'il y a d'autres logiques, c'est-à-dire qu'il y a d'autres logiques politiques, et que dans les milieux nazis, des gens qui vont être plus sur la tactique politique vont essayer d'utiliser le ressentiment des Ukrainiens contre le régime soviétique, et donc d'encourager le collaborationnisme ukrainien. Alors, l'encourager... dans des limites très strictes. C'est-à-dire que les nationalistes ukrainiens d'Ukraine de l'Ouest, donc de cette partie de la Pologne qui a été prise par Staline au moment du pacte, eux ont cherché, donc entre autres Stepan Bandera, ont cherché de façon consciente, exprimée, publique, la collaboration avec les nazis, ont donné tous les gages possibles dans le sens de cette collaboration. C'est les nazis qui n'ont pas voulu, c'est-à-dire par exemple les nationalistes de la tendance de Bandera ont proclamé l'indépendance de l'Ukraine le 30 juin 1941, c'est-à-dire 8 jours exactement après le début de l'attaque nazie. Et dans la proclamation d'indépendance, il y avait le fait que cet État ukrainien collaborerait avec l'Allemagne nazie dans la lutte contre le bolchevisme. Les nazis ont refusé, ont mis Bandera en prison puis en camp, sans jamais l'assassiner hein, et sans jamais l'astreindre à des travaux qui auraient pu conduire à sa mort. Ça permet à Bandera de passer pour un martyr jusqu'à aujourd'hui dans les milieux nationalistes ukrainiens. Donc, pas de possibilité de proclamation d'une Ukraine indépendante dans le cadre de la domination nazie. Mais par contre, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre et les nationalistes ukrainiens vont être largement à l'origine de la polizei supplétive locale qui va servir les intérêts allemands, qui va en fait s'occuper de la Shoah au niveau logistique, c'est-à-dire aller chercher les juifs chez eux, les rassembler et les amener jusqu'au lieu d'exécution, où là, ça va être plutôt des membres des Einsatzgruppen qui vont pratiquer les assassinats. Donc, et les nationalistes ukrainiens vont finir par créer leurs propres unités de combat, mais uniquement après la défaite allemande de Stalingrad. Et quand ces unités de combat, donc l'armée insurrectionnelle ukrainienne, ou UPA, va être créée, alors aujourd'hui on lit « ils n'ont pas massacré de juifs » et pour cause, il n'y avait plus de juifs à massacrer. Et ça, je l'ai entendu sous cette forme-là lapidaire dans la bouche de Dominique Harel, un Canadien qui est le président des études ukrainiennes au Canada, ce qui est quand même un poste. Alors, c'est le premier non-ukrainien d'origine d'ailleurs à occuper ce poste-là. Un poste qu'on ne donne pas à n'importe qui. Donc ça, c'est la première chose. Et s'ils ont massacré peu ou pas de juifs, une fois formés en armée insurrectionnelle ukrainienne, mais par contre, ils ont fait un nettoyage ethnique contre les Polonais de Volhynie, qui a quand même provoqué 23 000 morts. Et il faut quand même se rendre compte que des groupes... Donc on est dans des territoires occupés par les nazis. Alors, on est loin du front, donc... Il n'y a pas des soldats allemands partout, c'est clair. Mais on est quand même dans des territoires occupés par les nazis. Cette armée insurrectionnelle ukrainienne est une armée clandestine. Sa première préoccupation, c'est d'aller massacrer des villageois polonais. Donc là encore, on trouve toujours le choix de l'ennemi principal qui fait que le nationalisme ukrainien a toujours choisi une grande puissance contre une autre et a toujours choisi de pratiquer un type... de laisser faire ou de pratiquer un type de persécution ethnique toujours suivant le principe de comme ça, au moins, on sera maître du territoire.
À vous écouter, là, j'ai l'impression qu'on est dans les terres de sang de Timothy Snyder, cet historien qui a essayé de repenser une ère géographique très importante, la marche de l'Est, ce qui sépare l'Europe de l'Est de la Russie, pour montrer à quel point toute cette région, l'Ukraine comprise, a été prise dans une sorte de maelstrom, de massacre, de déportation, qu'il essaye de jalonner, hein, une Europe prise entre Hitler et Staline.
Oui.
J'en viens peut-être là, justement, la discussion qu'il y a peut-être maintenant dans les universités autour de l'historiographie de tous ces phénomènes. Est-ce qu'elle a pas beaucoup évolué, est-ce qu'elle a quand même pas mal évolué ces derniers temps, ces dernières années, ouverture des archives, des historiens de langues différentes qui commencent à se parler? Qu'est-ce qui est en train de se développer?
Comment vous dire, je vais peut-être repartir de Snyder. C'est repartir de la fin. Parce que justement, le parcours de Snyder lui-même est intéressant pour comprendre l'évolution de l'historiographie. Snyder est quelqu'un qui travaillait à l'origine plutôt sur l'Europe centrale, les terres dominées par les Habsbourg.
Des sources allemandes.
Voilà. Dans ce cadre-là, il a commencé à s'intéresser aux Ukrainiens. Il a entre autres fait un livre sur un membre de la famille impériale des Habsbourg qui s'est retrouvé à la tête de la première unité militaire ukrainienne. Mais là encore, donc c'était pendant la guerre 14-18, les fusillés de la Sitch. Alors là, c'est aussi en termes de construction historique, fusillés de la Sitch. La Sitch, c'est l'assemblée des Cosaques. Ça se passe en Galicie où il n'y a jamais eu un Cosaque. Donc déjà, voilà, on est dans la fabulation historique, dans la création de ce régiment. C'est un régiment ukrainien, mais sous uniforme austro-hongrois, et dont le commandant est un membre de la famille impériale austro-hongroise. Belle conquête pour l'idée d'indépendance de la nation ukrainienne. Alors bon, clairement, ce Habsbourg-là était quand même un peu quelqu'un d'à part dans sa famille, donc il y avait des opinions très libérales, très à gauche, etc. Mais pour dire, donc, voilà, une situation quand même très complexe dans ce domaine-là. Donc Snyder travaille là-dessus. Il est aussi un des premiers à avoir travaillé sur les massacres perpétrés par les nationalistes ukrainiens contre les Polonais. Ensuite, les terres de sang, c'est tout à fait un autre projet. C'est un projet très grand public. Alors, je ne vais pas dire qu'un livre, il est bon parce qu'il est lu par personne et que s'il est lu par beaucoup de monde, il n'est pas bon. Mais ça veut dire que le choix qu'a fait Snyder, c'était de réduire son appareil conceptuel pour ne garder que ce qui était très parlant et, je dirais, au mépris justement de l'exactitude conceptuelle. Alors, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est l'utilisation du terme de colonisation pour décrire l'Ukraine soviétique. Alors, c'est très parlant. C'est-à-dire que n'importe quel lecteur occidental, il lit colonisation, il a immédiatement une série d'images qui viennent. Très bien. Sauf que, bon, moi je suis citoyen français, la colonisation, dans le cas de l'Algérie, ça a voulu dire que, je crois qu'il y avait moins de 10% des enfants qu'on appelait français musulmans, qui avaient accès à l'école. Je veux dire, en Ukraine soviétique, tout le monde y avait accès, c'était même obligatoire. Et y compris, il y a les premières attaques contre l'enseignement de l'ukrainien dans les années 20, c'est venu des parents qui voulaient que leurs enfants apprennent le russe parce que c'était la langue de tout l'État et donc la langue de la promotion sociale. Donc d'écrire ça comme de la colonisation, alors si c'est pour dire que la nation ukrainienne n'était pas libre, à la rigueur je veux bien, mais ça ne décrit pas les rapports sociaux, ni même les rapports économiques, parce que, je suis désolé, le blé ukrainien, il y en avait une partie qui partait en Russie, peut-être, mais il y en avait beaucoup qui restaient sur place, et le fait de créer des usines gigantesques à Kharkov, à Dnipropetrovsk, de développer le Donbass, de faire venir des gens dans le Donbass, et c'était pas tous des Russes, au contraire, il y a eu une politique, justement, dans les années 20, d'ukrainisation de la classe ouvrière ukrainienne. Donc voilà, le terme de colonisation... Non, c'est pas vrai. Donc, ça, c'est un exemple. Mais les terres de sang, alors là, pour le coup, quand j'ai appris la sortie du livre, je me suis dit, très bonne idée. Mais commencer en 1933, c'est justement couper les atrocités qui ont lieu à partir de ce moment-là de celles qui avaient commencé en 1914. Et là, ça me semble faux. Faux pour plusieurs raisons. Les déplacements de population avec les assignations de population à une appartenance ethnique, ça commence en 1914. Les juifs, l'armée tsariste commence à faire des pogroms dès 1914 parce que ces juifs qui sont ressortissants de l'empire tsariste, ils parlent le yiddish qui ressemble à de l'allemand et qu'on est dans une espèce d'espionnite généralisée et que le régime tsariste essaye de bétonner un nationalisme russe à toute épreuve. Et donc autant il veut bien reconnaître que les Ukrainiens sont russes, autant les juifs ça pose problème. Donc on commence à parquer les juifs, etc. Arrivent ensuite les pogroms de la guerre civile, mais qui viennent justement après ces premiers pogroms militaires de la guerre. Donc il y a toute une progression. Vis-à-vis de la paysannerie se soulève au moment de la Révolution, et tous les régimes, y compris le régime du gouvernement provisoire de la République russe entre février et octobre 17, pratiquent les réquisitions de blé dans les campagnes. Les réquisitions de blé, elles ont même commencé en 1916. Donc du coup, l'idée qu'on doit prendre le blé chez les paysans et que si les paysans ne donnent pas ce blé, on envoie des détachements armés le prélever, ça commence avant 1933. Voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça qui perdent leur sens. Et du coup, quand on commence en 1933, c'est super pratique. Il y a la famine d'un côté, la prise du pouvoir par Hitler de l'autre. Et du coup, on a Staline et Hitler, mais totalement dégagés du terreau d'où ils sont sortis. Y compris, ça fait aussi disparaître la crise de 1929, dans le cas de l'Allemagne nazie. Ce qui est assez général, hein. La crise de 1929 n'existe plus, alors qu'à mon avis, depuis la crise de 2008, on aurait quand même plutôt intérêt à la relire. Mais pourquoi je parle de la crise de 1929 ? Elle peut expliquer beaucoup de choses sur la prise du pouvoir par Hitler, mais paradoxalement, elle permet aussi de comprendre des choses sur la famine ukrainienne. Parce que pourquoi est-ce qu'on a si peu entendu parler de la famine ukrainienne en 1933 ? Parce qu'il y a eu le blackout du régime stalinien, c'est sûr. En même temps, ce blackout-là, il a été combattu par les nationalistes ukrainiens dans l'émigration, mais aussi par tout un tas d'opposants au régime stalinien, d'à peu près tout l'éventail politique, mais particulièrement de la gauche, c'est-à-dire des mencheviks, des trotskistes, etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas passé ? Alors déjà, parce qu'il y avait tout un tas d'États occidentaux, je pense particulièrement à la France, qui commençait à échafauder des plans de rapprochement diplomatique avec l'Union soviétique, donc on n'allait pas dire du mal d'un allié potentiel, mais aussi parce qu'avec la crise de 1929, dire que les paysans crèvent de faim en Ukraine, pour des tas d'Européens de l'Ouest qui ne connaissent pas une famine de la même ampleur, mais qui sont obligés d'aller à la soupe populaire, c'est une information qui est tout simplement tombée et qui n'a pas été comprise pour ce qu'elle était, parce que les gens eux-mêmes vivaient des difficultés d'approvisionnement. Donc, vous voyez, si on oublie tout ce background, tout ce contexte, on fait une histoire qui est très lisible. Hein, le livre de Snyder, il se lit avec... on ne le repose pas, on le prend et on le lit jusqu'au bout. Mais c'est quand même largement une reconstruction.
C'est aussi peut-être le problème des grandes synthèses, souvent. Je pense à un autre ouvrage, peut-être, je pense que vous le connaissez aussi, c'est celui de Kate Lowe, L'Europe barbare, qui s'intéresse plus à la Seconde Guerre mondiale et qui, en soi, n'apporte peut-être pas grand-chose aux historiens et aux spécialistes, mais qui permettent au lecteur curieux, en tout cas, d'avoir une sorte de panorama d'une histoire de la violence dans les pays de l'Est, d'une guerre, d'une violence qui ne s'arrête peut-être pas comme nous on peut l'imaginer ou comme nous le figurons en 1945 avec un beau défilé sous les Champs-Élysées, mais qui se poursuit, puisqu'on parlait de l'UPA, justement, cette armée ukrainienne insurrectionnelle, la lutte continue jusque dans les années 50.
Tout à fait. Mais justement, j'ai lu les deux dans la foulée, Snyder et Kieslow. Comment dire ? Parce que j'ai trouvé que Kieslow était à la fois, peut-être moins prétentieux. C'est-à-dire, il ne prétend pas avoir trouvé un concept. Par contre, moi, j'ai trouvé qu'il avait des outils d'analyse beaucoup plus solides. C'est-à-dire qu'il ne prétend pas trouver un mécanisme unique, mais quand il décrit chaque mécanisme, je l'ai trouvé beaucoup plus sérieux et cohérent que Snyder. Et même à mettre en valeur un certain nombre de choses qui gênent. Quoi. Alors que Snyder, comme il veut faire un tableau général sur une seule ligne d'analyse, y a des tas de choses que, de fait, il va lisser ce que fait pas Lowe.
Ce deuxième épisode d'entretien touche à sa fin. Dans le dernier chapitre que nous consacrerons à l'Ukraine en compagnie de l'historien Eric Honnoble, nous nous pencherons sur l'histoire récente qu'a traversé ce pays depuis sa sortie de l'URSS.